Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Une semaine après la Journée mondiale des malades et en ce jour où nous célébrons la fête de Sainte Bernadette, Radio Présence vous propose de découvrir le rôle des aumôniers d'hôpitaux. Dans une société sécularisée, la présence d'aumôniers est-elle pertinente et ne vient-elle pas à l'encontre du principe de laïcité prôné par nos élites ? Les aumôniers d'hôpitaux, leur place, leur rôle, leur questionnement. Nous en parlons aujourd'hui avec Claire Trizis, aumônier catholique à Cahors. Elle est à Radio Présence Cahors. Elle n'est pas encore avec nous. Je vous présente le pasteur Agnès Vest-Desplanques, aumônier protestante du CHU de Toulouse et de l'Oncopole, qui est à mes côtés. Bonjour.
Bonjour Isabelle.
Merci d'être là. C'est un peu folklorique ce matin. On va essayer d'être en ligne avec Claire Trizis. On peut peut-être commencer par un bref retour en arrière. Lors de la pandémie de Covid-19, les aumôniers ont été temporairement exclus des services de soins. Où en est-on aujourd'hui, Agnès Vest-Desplanques?
Bon, aujourd'hui, en gros, tous les aumôniers du CHU de Toulouse ont accès à tous les services. Voilà. Nous répondons à tous les appels des patients et des familles également.
Oui, donc finalement, la solution est revenue, la situation est revenue comme avant.
Oui, bien sûr.
Avant.
En fait, dans la première période Covid, le CHU de Toulouse était en mode panique. Hein. Et en gros, ils n'avaient pas anticipé cette crise majeure. Et aujourd'hui, en gros, nous savons, nous savons que les aumôniers ont leur place. Enfin, le CHU de Toulouse a pris conscience que les aumôneries, qui constituent un service de l'hôpital, ont vraiment toute leur place dans l'accompagnement spirituel et religieux des personnes, en particulier dans les temps de crise.
Claire Trizis, je crois que nous vous avons retrouvé, nous avons rétabli la ligne. Est-ce que vous êtes avec nous?
Bonjour, bonjour.
Oui, bonjour. Merci d'être là. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu le début de l'émission. Ma première question était sur un petit retour en arrière avec cette pandémie de Covid-19 pendant laquelle les aumôniers avaient été exclus des services de soins. À Cahors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que tout a été rétabli comme à Toulouse, comme nous le dit Agnès Vest-Desplanques?
Alors, a priori, moi, je dirais que oui, bien que moi, je suis arrivée en pleine pandémie. Je suis arrivée en septembre 2020, donc je n'ai pas vécu la première vague. Effectivement, je pense que les soignants, la direction, vu qu'il n'y avait aussi aucune autre intervention de la part d'associations, que les bénévoles n'avaient pas d'accès non plus, ils s'étaient rendus compte effectivement du besoin qu'il y avait à ce niveau-là. Donc je dirais qu'effectivement, tout est rentré dans l'ordre.
Bon, ben ça, c'est une...
Sauf pour un point, je dirais que vis-à-vis des équipes, des nombres de bénévoles, c'est vrai qu'il y a eu quand même une cassure. Je crois que ça s'est remarqué au niveau de d'autres services ou d'autres associations. C'est vrai que moi, je n'ai pas réussi à reconstituer une équipe telle qu'elle était auparavant. Voilà. Le nombre est plus restreint. C'est vrai qu'il y a eu changement d'aumônier plus Covid. Donc
oui, vous n'étiez pas aidé à ce niveau-là. Vous avez l'air surprise par ce que dit Claire Trizis, Agnès Vest-Desplanques.
Oui, pour ma part, moi-même, j'encadre une équipe de 10 auxiliaires bénévoles que j'ai introduits dans différents services du CHU de Toulouse, de l'Oncopole et de l'hôpital Marchand où j'ai développé une antenne à la demande de médecins et à la demande des patients aussi qui m'appellent. Et je constate un bon accueil de mes auxiliaires bénévoles dans les services. Oui, c'est ce que je constate,
oui. Oui, oui. On va voir effectivement comment vous êtes appelés, vous, aumôniers et bénévoles dans les hôpitaux. Je voudrais quand même qu'on fasse un petit détour par le cadre législatif, puisque si votre présence dans les hôpitaux est possible, c'est qu'elle est prévue par la loi. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les dispositions législatives?
Oui. Nous avons la chance donc d'avoir une loi, la loi de 1905. Qui distingue les pouvoirs de l'État et les églises, les cultes, Et qui prévoit également, dans le cadre, dans ce cadre juridique, le respect de toutes les croyances, de toutes les convictions dans l'espace public. Et c'est pourquoi notre loi prévoit, notamment dans les hôpitaux, mais aussi dans les prisons, mais aussi sur le champ de bataille, ou dans les universités, des aumôniers qui sont là pour répondre aux attentes spirituelles des personnes. Donc notre loi de 1905 va vers le respect de la liberté de conscience, le respect de toutes les croyances dans, dans l'espace public.
Mmh. Voilà. Claire Trésis, à Cahors, est-ce que vous avez le sentiment que cette loi de 1905, elle est effectivement appliquée ou est-ce que vous sentez une certaine réticence ?
Alors, c'est sûr qu'on n'a pas tout à fait les mêmes problématiques. Moi, je suis plutôt dans une petite ville de province, un peu éloignée de la métropole toulousaine. Donc, effectivement, les problématiques ne sont pas toujours les mêmes. Après, effectivement, vis-à-vis de cette loi, vis-à-vis de du terme même de laïcité qui a été instauré plus tard, c'est vrai que des fois, il y a une méconnaissance, une incompréhension de cette loi. Et parfois, malheureusement, si vous voulez, c'est assimilé à finalement une interdiction des croyances. Donc, par ce biais-là, si vous voulez, parfois, on a des études qui sont plutôt fermées. Bon, j'aime bien reprendre un peu les propos du pape, là, quand il est venu en Corse. Finalement, on ne peut pas mettre d'adjectif à laïcité, laïcité ouverte, fermée, et plutôt lui parler de saine laïcité, en fait. Hein. Voilà, le tout, c'est de bien faire comprendre, effectivement, comme le dit Agnès, les tenants et aboutissants de cette loi de 1905, afin qu'effectivement tout le monde soit conscient du fait que État et service représenté hein, par service public et nous la fonction publique hospitalière, donc l'État et les cultes peuvent travailler ensemble, il peut y avoir une collaboration et une entente si vous voulez. Hein, voilà. Et dans ce cas-là, l'État de toute façon se considère incompétent pour gérer les cultes et de fait, il mandate des services d'aumônerie pour effectivement aborder cette problématique.
Mmh. Alors précisons que les aumôniers doivent passer un diplôme universitaire, donc n'importe quelle personne ne peut pas forcément être aumônier.
Voilà. Alors, du coup, effectivement, il y a cette fameuse loi de 1905, mais voilà, nous sommes quand même très encadrés. Hein. En fait, j'ai dénombré, il y a pas moins de trois lois, hein, 1905, 86 avec la reconnaissance du statut d'aumônier, 2021, la loi contre le séparatisme. Il y a six circulaires, hein, 95, 2005, 2017, 2006, 2011. 2024, alors 2011 et 2024, c'est une charte nationale des aumôniers avec sa réactualisation là, il y a un an à peu près. Et effectivement, un fameux décret sorti en mai 2017 qui conditionne le recrutement des aumôniers avec une condition, à savoir l'obtention d'un diplôme universitaire de droit civil et civique. Ce qui en fait est très bien d'ailleurs. Hein. Ça légitime d'autant plus notre intervention. Voilà, donc nous sommes en fait des professionnels de la connaissance de la laïcité. Et finalement, on aborde aussi toutes les grandes traditions religieuses. Ça nous donne un esprit d'ouverture, d'accueil. Et aussi souvent on a des formations aussi sur l'écoute, si vous voulez. Donc on est vraiment des personnes qui sont aptes à dialoguer, à pouvoir instaurer un échange respectueux, quelles que soient les convictions et les croyances des personnes que l'on rencontre.
Mmh. Agnès Vesdublanc,
vous voulez compléter ? Oui, tout à fait. Moi, je peux comment dire, confirmer ce que dit Claire, à savoir que nous intervenons de plus en plus auprès des professionnels de santé qui nous interrogent justement sur les thématiques laïcité, spiritualité, rite religion, rite des différentes religions. Voilà, nous sommes attendus ici et parce que nous avons une formation, une compétence, une expertise dans tous ces domaines.
Mmh. Donc ça veut dire que si vous êtes pasteur protestant ou si vous êtes aumônier catholique, finalement vous êtes habilité à vous tourner vers les patients et puis s'il y en a un qui manque à l'appel, un aumônier qui manque à l'appel, vous pouvez au moins avoir un premier contact avec le patient qu'il demande.
Oui, oui. Enfin, je précise donc que je suis pasteur de l'Église protestante unie de France, aumônier également. Moi-même, j'ai suivi toute une formation pour devenir aumônier. Je fais de la formation continue. Pour moi, c'est aussi quelque chose de très important. Mais je crois que nous en parlerons un petit peu plus tard. À savoir qu'être aumônier, bon, c'est sans cesse se former. C'est être conscient de là où on se positionne dans la relation. Ça nécessite, bien sûr, un lieu de supervision, un lieu où on peut relire notre pratique.
Oui, oui, c'est important, ouais. Effectivement, de se ressourcer aussi. On en parlera. Une enquête de la Croix publiée le 11 février 2024 met en exergue une précarisation de l'emploi des aumôniers d'hôpitaux. Quelles en sont les raisons?
Je pense qu'il y a des raisons économiques.
Ouais.
À savoir que l'hôpital public aujourd'hui, quand même, n'est pas en très bonne santé économique.
Parce que précisons qu'un aumônier d'hôpital est rémunéré par l'hôpital lui-même.
Voilà, il est rémunéré, mais très faiblement. Nous sommes rémunérés à l'échelon 5, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire comme des femmes et hommes de ménage. Nous ne sommes pas rémunérés, justement, comme des personnes diplômées avec des compétences universitaires. Mais je pense effectivement que notre fonction est précarisée parce qu'aujourd'hui, il manque des soignants dans l'hôpital et que, bien évidemment, l'hôpital public, dès qu'il y a une vacance, par exemple, de poste, il va réorienter le budget vers des postes de soignants, par exemple.
Oui, il y en a aussi beaucoup besoin.
Il y en a aussi beaucoup besoin. Donc, effectivement, notre fonction d'aumônier... n'est pas considérée comme centrale, comme dans le fonctionnement de l'hôpital. Nous participons au bien-être, mais il n'empêche que aujourd'hui, bon, s'il y a une urgence, je pense que l'hôpital ne va pas aller vers une augmentation des postes d'aumôniers. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Claire, mais
oui, Claire, un avis là-dessus?
Oui, c'est vrai que on intervient au sein d'une crise globale de l'hôpital, ça c'est tout à fait vrai. Effectivement, s'il y a une logique strictement comptable de l'établissement hospitalier, c'est sûr que nous, notre activité, il n'y a pas de résultat quantifiage, de chiffrage possible. Donc ça, effectivement, si quelqu'un ne fait pas l'effort de s'intéresser, si vous voulez, au fait qu'on apporte quand même, qu'on humanise en fait l'hôpital, c'est vrai que ça crée un gros biais. Et surtout, en fait, c'est qu'il peut y avoir une méconnaissance de la part des directions d'établissement, une méconnaissance, si vous voulez, du fait religieux, des religions. Parfois, peut y avoir des préjugés ou des a priori. Il ne faut pas oublier qu'on intervient dans une société qui s'est largement sécularisée. Donc le fait religieux, parfois, malheureusement, n'intéresse plus grand monde. Donc, si vous voulez, voilà, c'est délicat. Il faut que la direction ait vraiment pris conscience de l'intérêt, si vous voulez, de notre intervention.
Mais justement, après, comment... Oui, bah, allez-y, je vous en prie.
C'est multifactoriel aussi, parce que, si vous voulez, c'est sûr que les séjours aussi en milieu hospitalier sont aussi de plus en plus courts. Donc, pour nous, ça ne favorise pas un suivi non plus. Bon, heureusement, on intervient aussi dans des unités de soins longue durée, des établissements psychiatriques et aussi des EHPAD. Voilà. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Maintenant, on n'a plus d'accès libre non plus aux chambres. On est obligé de travailler en lien avec le personnel soignant, qui, pour la plupart, le personnel soignant, que ce soit agent d'entretien, aide-soignant, infirmière, c'est surtout avec eux qu'on communique. Eux ont bien compris la nécessité de notre type d'intervention. Mais c'est vrai que c'est un travail au jour le jour, tisser des liens, faire comprendre l'intérêt de notre métier, de notre mission. Voilà, c'est au jour le jour et il ne faut jamais baisser les bras et être présent. Voilà, être présent.
Agnès Vest-Desplanck, sur des appuis sur lesquels vous pouvez compter pour faire exister cette aumônerie dans les établissements hospitaliers.
Ben, je voudrais juste attirer l'attention sur une conférence éthique qui va avoir lieu le 27 février à l'Oncopole entre 13h et 14h. En fait, nos 5 aumôneries, bouddhistes, catholiques, protestantes, israélites et musulmanes, ont été sollicités par le comité d'éthique de l'Oncopole, qui lui-même a été saisi par beaucoup de soignants de l'Oncopole qui se sentaient en difficulté pour accompagner les fins de vie et en particulier les familles endeuillées. Et nous avons été sollicités pour justement intervenir le 27 février dans l'amphicadre sur toutes ces questions où les soignants manifestent, un manque de préparation. Et moi, je constate aujourd'hui dans l'hôpital public quand même des sollicitations de la coordination des prélèvements d'organes, du DU de soins palliatifs, de l'IFSI du CHU, de l'IFSI de la Croix-Rouge. Nous avons aussi des contacts avec la faculté de médecine depuis à peu près un peu plus de 2 ans. Et je constate qu'il y a quand même une attente vis-à-vis des aumôneries, vis-à-vis des aumôniers qui sont perçus aujourd'hui comme vraiment des acteurs du soin, des partenaires du soin.
Voilà. Oui, c'est important. Alors, vous évoquez justement la question de la fin de vie. Il y a une loi sur la fin de vie qui est en projet avec l'élaboration de 2 textes distincts, l'un sur les soins palliatifs et l'autre sur l'euthanasie et le suicide assisté. Comment les aumôniers que vous êtes se positionnent-ils face à ces différentes attentes, Claire Trizis?
C'est sûr que toutes les grandes religions se positionnent en défaveur d'une évolution de la loi Claeys-Leonetti actuelle, qui malheureusement est sous-employée. Un tiers seulement des personnes ont accès aux soins palliatifs. Il faut vraiment, si vous voulez, axer là-dessus. Nous, on considère qu'effectivement, la solution n'est pas d'abréger la vie, mais de l'accompagner jusqu'au bout. Et de l'accompagner de façon globale, donc pluridisciplinaire. Donc mettre effectivement tous les soignants, toutes les médecines alternatives, parallèles, toutes la psychologie.
Et les aumôniers.
Et effectivement, l'accompagnement spirituel est au cœur du sujet. Alors effectivement, maintenant, on rencontre beaucoup de personnes qui peuvent être éloignées de toute considération spirituelle, mais ce besoin, lors de l'épreuve et de l'approche effectivement de la fin de la vie, peut s'exacerber et le besoin peut effectivement apparaître, d'où l'intérêt effectivement que l'on puisse intervenir auprès de ces personnes.
Oui, bien sûr. Comment vous accompagnez spécifiquement les personnes qui sont en fin de vie, les personnes qui sont à quelques jours de la mort, et comment vous accompagnez leur famille dans cette épreuve?
Nous, on est là effectivement non seulement pour la personne elle-même, mais effectivement pour ses proches, pour sa famille. On est là aussi pour le personnel soignant. On accompagne. Alors, en fait, c'est vraiment à la demande. Tout accompagnement est une démarche tout à fait singulière. Chaque cas est un cas particulier. Avant tout, c'est être là, répondre aux attentes, cheminer auprès de la personne, être à ses côtés. C'est beaucoup un travail en fait d'écoute. Et ce travail d'écoute, ça s'apprend, comme le disait Agnès, cette mission d'aumônier, elle se peaufine, elle s'apprend tous les jours. Il n'y a pas de règles strictes. C'est déjà une présence. Et effectivement, ce travail de disponibilité qui doit être le plus exacerbé possible. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc effectivement, les demandes peuvent être diverses, avant tout spirituelles. Il y a des questionnements, parfois on nous interroge, puisqu'il y a des personnes qui sont hors la foi. Après, il y a des personnes qui ont besoin, qu'on les écoute tout simplement. Après, il y a des personnes effectivement qui ont besoin de religiosité. Alors bon, là effectivement, chacun dans sa branche, dans son culte, va avoir les outils nécessaires pour pouvoir accompagner. Mais en fait, si vous voulez, c'est vraiment un accompagnement singulier, pas à pas, à l'écoute, je dirais.
Agnès Fessel-Planck.
Voilà, moi je voudrais juste faire peut-être un petit focus sur un sondage IFOP qui a eu lieu tout récemment dans le cadre de la Fédération protestante de France. Et il ressort aussi dans ce sondage qu'un certain nombre de protestants, toutes sensibilités confondues, sont aussi favorables à une aide active à mourir. Alors, c'est très questionnant, je dirais.
Ah oui.
Mais je pense que, en tout cas, moi, j'accueille cette expression-là dans la mesure où, aujourd'hui, les soins palliatifs ne sont pas accessibles à tout un chacun, à tous les citoyens. Il y a de nombreux départements qui sont, on le sait, désertés par le corps médical, qui n'ont pas de soins palliatifs à proposer aux citoyens. Et je pense que ça peut créer et susciter cette demande d'aide active à mourir.
Oui, après, donc, à voir s'il vaut mieux pas développer les soins palliatifs plutôt que de
bien sûr. Alors, de mon point de vue, effectivement, de mon point de vue d'aumônier protestant, ce qui paraît fondamental à partir de ma pratique d'aumônier, c'est effectivement d'accompagner la vie jusqu'à son dernier souffle. Voilà, c'est vraiment généralement la demande. Dans mon ministère d'aumônier, j'ai eu une ou deux fois des personnes qui ont exprimé le désir que ça s'arrête, hein, parce qu'il y a trop de souffrance, parce qu'il y a peut-être une mauvaise prise en charge de la douleur.
Et de la solitude aussi, peut-être.
Et peut-être aussi une solitude existentielle, effectivement. Mais il n'empêche que la demande de l'être humain, c'est effectivement la demande d'une présence humaine, empathique, chaleureuse, voilà, jusqu'au bout.
Jusqu'au bout. Ouais. Claire Trézis et Agnès Vaz-des-Planques, je vous propose de nous arrêter quelques instants. Nous écoutons le trio Opus 100 de Schubert, interprété par le trio Wanderer.
Thank you.
présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
Dans un contexte de crise du milieu hospitalier et d'une crispation autour de la laïcité, comment les aumôniers d'hôpitaux parviennent-ils à remplir leur mission ? Deux aumôniers sont les invités de Radio Présence, Agnès Vesse Desplanques, aumônier protestante au CHU de Toulouse à l'Oncopole et où vous nous le disiez aussi à l'hôpital psychiatrique de Marchand, et Claire Trizis, aumônier catholique à Cahors. Je voudrais qu'on vous faire réagir aux propos du pape François publiés le 27 janvier dernier, à l'approche de la Journée mondiale des malades. Il a écrit « La présence de Dieu auprès des personnes qui souffrent passe d'abord par la rencontre hein, », vous l'avez dit. Dans l'Évangile, quand Jésus envoie les 72 disciples en mission, il les envoie près des malades pour leur permettre de rencontrer le Seigneur au cœur même de leur infirmité. Nos souffrances humaines que Jésus a partagées, qu'elles soient physiques, psychologiques ou spirituelles, deviennent alors l'occasion de la découverte d'un rocher inébranlable auquel nous pouvons nous accrocher pour affronter les tempêtes de la vie. Voilà, il y a beaucoup de choses dans cette situation. Comment les propos du Saint-Père résonnent-ils pour vous ? On va commencer par vous, Claire Trizis.
Alors, oui, bien évidemment, on est très attentif hein, au message du pape. Pour moi, c'est une parole voilà, très forte, hein, avec l'espérance ne déçoit pas et nous rend fort dans l'épreuve. C'est vraiment un encouragement pour nous tous, avec le rappel du don, hein, qui est une manifestation de Dieu dans notre vie, et le fait de devoir accueillir, cultiver cette espérance hein, qui nous donne force et courage. Là, je pense souvent au livre de Job et aux paroles de Luc aussi, avec les yeux fixés sur le Christ. Et cette espérance, je la vois mettre en œuvre dans deux cas de figure, alors que ce soit à titre individuel, quand on est soi-même confronté aux épreuves. Et le pape nous donne effectivement des pistes pour aborder ben, la maladie, la vieillesse, la fin de vie, en se sentant, en se sachant accompagné. Donc d'une part par des proches, des soignants, des aumôniers. Et dans ces phases de l'existence hein, qui sont dures, hein, qui sont connotées très négativement dans notre existence, la fragilité en fait se révèle être une occasion particulière et qui semble donc être plus propice, et nous le constatons hein, dans notre travail, semble être plus propice à la rencontre du Christ. Voilà. Et donc le pape de dire faire l'expérience de la consolation qui vient de Dieu. Et cela ne consiste pas à nier la réalité hein, qui est toujours présente, mais effectivement, elle peut être transfigurée, voire transcendée, jusqu'à se faire soi-même offrande. Hein. Ouais. Et en plus, à titre collectif, j'aime beaucoup cette idée de rencontre avec l'autre qui souligne effectivement, Agnès en a parlé aussi au début, l'importance de la relation à cultiver. Et là, ça nous donne un tout autre regard aussi, je trouve, sur effectivement les hébergements comme les EHPAD ou les établissements de soins, les hôpitaux psychiatriques, où effectivement, on voit à ce moment-là, on y voit, hein, au lieu d'y voir entre guillemets des mouroirs, on y voit vraiment des lieux de vie et de partage avec un enrichissement mutuel. Et je trouve que c'est vraiment très beau, quoi. Des lieux où vraiment la fraternité, l'unité, la compassion peuvent vraiment s'exprimer.
Mmh. Agnès Fessel-Planck.
En tant qu'aumônier chrétienne, effectivement, je suis le témoin du Dieu de la rencontre, le Dieu de Jésus-Christ qui vient à la rencontre de mon humanité, de ma fragilité, de mes angoisses, de mes peurs. Et quand je vais à la rencontre, à son appel de l'autre qui souffre, effectivement, je suis consciente que c'est ce Dieu-là qui doit passer à travers moi. Voilà. Et c'est au cœur de la rencontre qu'un peu de lumière peut jaillir, effectivement. Mais bien sûr, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Moi, j'ai conscience vraiment clairement que ce ministère d'aumônier, c'est un ministère de la non-puissance. C'est effectivement dans la mesure où j'accepte, où j'accueille ma non-puissance, que quelque chose de la puissance d'amour du Seigneur peut se révéler à la personne que je rencontre. Voilà.
C'est et vraiment... ça passe par quoi, cette non-puissance? C'est un effacement, c'est...
La non-puissance, ça veut dire que moi qui suis aumônier, moi qui viens à ton chevet, je ne vais pas te guérir. Je ne vais pas te donner de réponse probablement à tes grandes questions, mais je vais accueillir tes questions. Mais je vais traverser avec toi la nuit, je vais traverser avec toi ce moment de souffrance que tu vis. C'est dans ce sens-là que je parlerai de non-puissance. Mmh. Voilà, je suis tout comme toi vulnérable. Je suis tout comme toi mortel. Et c'est dans la mesure où je me place avec toi, sous le regard de Dieu, que quelque chose de l'ordre de l'inattendu et de la vie peut se manifester. Voilà.
Oui. Claire Trizis, vous faites cette même expérience de la vulnérabilité et de cette non-puissance?
Tout à fait. Effectivement, ça nous renvoie complètement à notre impuissance. Et en définitive, c'est là où d'ailleurs est la difficulté. Et c'est peut-être pas toujours donné à tout le monde de pouvoir accompagner de la sorte. Parce qu'effectivement, on n'est plus que dans l'être. La personne elle-même, si vous voulez... approche de la mort, tout s'effondre autour d'elle. C'est particulièrement effectivement s'il n'y a pas eu de préparation en plus à ce moment intime, ultime. Voilà, c'est une autre vie qui s'ouvre à elle. Il y a des angoisses, des peurs, ce qui est logique. Moi, je pense aussi souvent à Jésus, Jésus au jardin de Gethsémani, qui éprouve tout ce que peut éprouver l'humanité avec une incompréhension totale, une détresse morale, psychique, spirituelle même, et aussi sur la croix, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le cri de l'homme souffrant. Et nous, effectivement, donc la personne elle-même est confrontée à quelque chose de très mystérieux, d'inconnu, tout lui échappe, il faut qu'elle essaye de se positionner dans un lâcher-prise et une acceptation, ce qui est vraiment certainement très difficile et intime. Personne ne peut se mettre à sa place. Et nous, on est à côté, ça nous renvoie effectivement à notre futur mort, puisqu'on a tous une finitude, et on est dans l'être, on n'est plus du tout dans le faire, on ne peut rien faire, on ne peut qu'être présent et à côté et accompagné, être témoin du Christ là, présent au milieu de nous, parce que en fait, ce qui nous différencie aussi par rapport à tous les autres intervenants d'associations diverses et tout ça, c'est que en tant que chrétiens, nous considérons que quand nous visitons la personne, nous ne sommes pas seuls. Voilà, le Christ est avec nous. Voilà, il est au milieu de nous, il sait se faire proche, il sait exactement tout ce que l'homme a pu endurer en revêtant notre humanité, et c'est lui en fait qui est là présent et qui est au cœur de cette relation.
Malgré ce constat de non-puissance, vous devez quand même répondre à un certain nombre de questions sur la vie après la mort. Comment vous saisissez-vous de ces questions, justement, Agnès?
Alors, personnellement, il y a bien sûr la parole, celle qui nous est commune à tous les chrétiens. Et c'est cette parole qui peut faire tiers, c'est cette parole qui peut résonner dans le cœur de la personne que nous accompagnons. C'est cette parole qui peut ouvrir des pistes, mais effectivement, je ne pense pas qu'il y a, une seule réponse à la question de l'au-delà, parce que bien évidemment, l'au-delà est de l'ordre du mystère.
Et, oui.
Et de même que nous ne pouvons parler que de Dieu de façon très, avec beaucoup de respect, en sachant que Dieu est bien au-delà de tout ce que nous pouvons en dire, de tous les mots que nous prononçons pour dire quelque chose de lui. Donc, moi, je garde un certain mystère par rapport à l'au-delà. De même que nous ne pouvons confesser que le Christ ressuscité, mais nous ne savons pas comment a pu avoir lieu la résurrection. Nous ne pouvons pas expliquer ce nouvel événement. De même, je crois que nous sommes bien petits pour dire ce qu'il y a au-delà de la mort, sinon rester dans l'espérance et dans cette confiance que nous donne la parole, et notamment Christ mort et ressuscité.
Mmh. Voilà. Et de votre côté, Claire Trésis ?
Oui, alors là, j'abonde tout à fait dans le sens d'Agnès. Hein. C'est vrai que des fois, les personnes peuvent questionner à ce sujet. Oui. Dans la mesure où elles sont chrétiennes, effectivement, on peut s'appuyer sur la parole. Mais moi aussi, je ne m'engage pas sur ce terrain-là, puisqu'il y a effectivement, c'est de l'ordre du mystère, et nous ne savons pas. Et par contre, la question peut émaner aussi de personnes hors la foi. Et alors là, c'est d'autant plus compliqué, hein, oui. Parce que ça peut être mal interprété. Enfin, on peut pas non plus annoncer, parler de la parole, si vous voulez. Ça peut être mal reçu. Hein, comme je vous dis, c'est au cas par cas. Donc voilà, on voit ce qui nous semble possible de dire ou pas. Et sinon, moi, j'en reviens à la notion d'amour, hein, des fois, tout simplement. Hein, et effectivement, ce lâcher prise, cet abandon et cette confiance, voilà, cette confiance qu'on doit mettre dans la force de l'amour.
Mmh. Mais est-ce qu'il ne vous est pas demandé d'être témoin de l'espérance chrétienne ?
Alors, nous sommes, c'est le cœur de notre mission, voilà, d'être en fait. Alors, nous, on est très heureux, les catholiques, cette année, d'être des pèlerins de l'espérance.
Et avec la naissance.
Et encore, nous sommes des transmetteurs et à minima des émetteurs de l'espérance. Voilà, c'est sûr que c'est un don qu'on doit porter de façon quasi permanente. Hein. C'est quelque chose qui doit être chevillé dans notre corps, notre esprit, voilà. C'est quelque chose qui nous conduit, c'est sûr.
Oui, Agnès Fessé-Planck.
Oui, l'espérance, justement, c'est cette assurance que rien ne peut nous séparer de cet amour de Dieu qui nous a été manifesté en Jésus-Christ. Et dans ce rien, il y a la mort. Et dans ce rien, il y a toutes nos angoisses, toutes nos peurs, tous les tourments que nous pouvons affronter dans cette existence. Savoir que notre vie est dans la main de Dieu. Alors c'est vraiment une image là, encore une fois une image. Mais savoir que notre vie repose dans cet amour de Dieu. Voilà, c'est notre espérance fondamentale. Et c'est l'espérance dont j'essaye d'être le témoin.
Oui, c'est ça. Une toute petite dernière question pour terminer. Comment l'une et l'autre, en tant qu'aumônier catholique et aumônier protestante, vous ressourcez ? Peut-être qu'Agnès veut commencer.
Bon, moi, je me ressource dans la méditation, dans l'étude des Écritures, dans ma relation au Christ, dans la prière. Je me ressource aussi très concrètement dans des temps de supervision personnelle, dans des temps de supervision collective avec mes autres collègues aumôniers au CHU de Toulouse. La méditation et la formation sont pour moi les deux piliers pour un ressourcement.
Mmh. Et vous, Claire Trésis ?
Alors moi, c'est sûr qu'effectivement, comme Agnès, hein, la prière est essentielle. Hein, il faut vraiment cultiver cette prière. Alors, à titre individuel, moi, j'aime beaucoup la pratique de l'oraison. Mais effectivement, prière collective, c'est sûr que moi, je vais à la messe quasiment tous les jours et je me nourris effectivement de la parole et de l'Eucharistie. J'essaie de suivre aussi la liturgie du jour. Et pour les patients que je vois qui sont dans la foi catholique, je leur lis souvent hein, la parole du jour, afin qu'ils puissent faire communion avec l'Église. Après, effectivement, les formations hein, permettent effectivement aussi de s'appuyer très fortement. Alors, on a des formations au niveau de la pastorale santé. Alors là, on va partir, nous, fin mars, 2 jours à Lourdes, et ça permet effectivement de rencontrer d'autres aumôniers, qui est très constructif et enrichissant. Après, on a des formations diocésaines diverses, des formations en paroisse aussi. J'essaie d'assister aussi à pas mal de ciné-débats ou des conférences, notamment aussi sur des sujets d'actualité, voilà, pour me renseigner un petit peu sur les sujets éthiques et les débats qui peuvent concerner la fin de vie. Après, moi, effectivement, ma vie de famille et mon lieu de vie à la campagne sont essentiels aussi, puisque j'ai besoin d'une vie très calme, apaisée, Voilà, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de bruit, d'agitation autour de moi. Et j'ai besoin de ce lien à la nature. Oui. Voilà, après, on peut se faire accompagner aussi spirituellement. C'est vrai que moi, personnellement, j'aimerais aussi faire davantage de retraites, mais pour l'instant, ça m'est un petit peu difficile.
Voilà, il faut trouver le temps pour tout. Merci en tout cas voilà. À vous deux, Claire Trésis et Agnès Vest-Desplanques, que vous nous avez éclairés en tout cas sur cette place de l'aumônier catholique et protestant en hôpital. Merci beaucoup.
Merci Isabelle.